Voix Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous. On commence en Côte d'Ivoire. La défense de Simone Gbagbo envisage d'introduire un pourvoi en cassation après la lourde condamnation ce mardi de l'ex-première dame par le jury de la cour d'assises d'Abidjan. Madame Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été condamnée à 20 ans de prison pour son rôle durant la crise post-électorale de 2010-2011. Ses avocats ont dénoncé ce qu'ils appellent un procès politique. Jacques Aristide a joint l'un d'entre eux, Maître Rodrigue Dadji.
Je suis pas surpris et en même temps je suis déçu parce que la justice ivoirienne n'a pas été à la hauteur des attentes. Elle a montré une fois de plus qu'elle était une justice aux ordres du pouvoir ivoirien. Et on pourrait dire à la limite que c'est carrément une justice des vainqueurs. C'est une décision politique qui a été rendue. C'est pas une décision judiciaire. Si ça avait été une décision judiciaire, Madame Gbagbo aurait été totalement acquittée. Parce que ce procès-là a permis la manifestation de la vérité. Ça a été un procès public et tout le monde a pu y assister, y compris les journalistes. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de fait précis reproché à Madame Gbagbo. Il n'y a aucun élément de preuve. Dans un procès pénal où il n'y a pas de fait précis, où il n'y a pas d'élément de preuve, on ne condamne pas. Je suis désolé. Cette décision est purement politique. Elle n'a que pour but d'écarter Madame Gbagbo de la scène politique.
Maître Rodrigue Dadji, l'un des avocats de Madame Gbagbo, joint à Abidjan. Le président zambien Edgar Lungu en Afrique du Sud pour des examens médicaux, 2 jours après avoir eu un malaise en public. Monsieur Lungu a déclaré ce mardi qu'il se sent beaucoup mieux après avoir quitté l'hôpital à Lusaka, la capitale, mais il dit avoir besoin d'autres tests pour déterminer s'il doit être traité avec des médicaments seulement ou avoir recours à la chirurgie. Le bureau du président zambien affirme que Monsieur Lungu souffre d'achalasie, une maladie qui conduit à un rétrécissement de l'œsophage et des complications pouvant entraîner des douleurs thoraciques et des difficultés à avaler la nourriture et l'eau. Au Gabon, les usagers de la toile et du téléphone à l'international ont été gravement perturbés durant 24 heures. Gabon Télécom dénonce un acte de sabotage. Les explications, Salwa Diafari.
Aussitôt sorti de la crise provoquée par une grève de 2 semaines, Gabon Télécom se voit contraint de s'expliquer de nouveau. Un nouveau problème, un acte de sabotage, selon ses dires. Une attaque qui a visé, selon le fournisseur d'accès Internet, un câble de fibre optique dans un quartier de Libreville. Vers 4 heures du matin dans la nuit du lundi, des individus auraient saboté le câble sous-marin SAT-3, faisant en sorte que le trafic international, l'Internet et les autres transmissions de données soient perturbées, explique l'opérateur télécom. Le rétablissement total du réseau devrait prendre 2 à 3 jours. Les Gabonais s'étaient déjà retrouvés quasiment coupés du monde durant 48 heures, les 25 et 26 février, lorsqu'une grève déclenchée par une partie du personnel de Gabon Télécom avait interrompu la fourniture du service Internet.
À Libreville, il est 18h05, temps universel.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Des témoins rapportent avoir entendu une forte explosion dans la ville nigériane de Maïdougouri où plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 140 blessés dans des explosions samedi. Selon un correspondant de la VOA, l'explosion s'est produite peu après 16 heures, heure locale, et semblait avoir frappé une zone de marché dans la ville. Il dit que la police n'a pas de membres parmi les journalistes. La police n'a pas permis aux journalistes de se rendre sur les lieux. Des témoins affirment également que Boko Haram a attaqué la ville de Ngamdou dans l'état de Borno. C'était mardi et selon Reuters, plus de 10 personnes ont été tuées. Le comité international de la Croix-Rouge s'inquiète d'une crise humanitaire généralisée dans la région du lac Tchad où opèrent des centaines de milliers de combattants du groupe islamiste Boko Haram. La situation se détériore au Nigeria et dans les pays voisins, le Tchad, le Niger et le Cameroun, déplore le CICR. Nicolas Pinot a joint Jean-Yves Clémenceau. Il est le porte-parole Afrique du CICR.
C'est une crise qui a une dimension régionale, qui ne touche pas que le Nigeria, mais aussi les pays voisins, le Cameroun, le Niger, le Tchad, où il y a de nombreux déplacés. Ces déplacés ont souvent quitté leur domicile sans rien. De plus, ils vivent dans des endroits où il y a peu de services de base, où les communautés résidentes sont déjà affaiblies et on a des soucis. On demande à ce stade surtout de pouvoir avoir accès Sur place, donc on mène déjà de l'aide, des distributions de nourriture dans certaines zones et on aimerait avoir plus d'accès pour pouvoir venir en aide à ces populations.
Quelle est par exemple la situation au Niger ?
Alors au Niger, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, il y a à peu près 100 000 déplacés, réfugiés du Nigeria dans la région de Diffa. Donc c'est un poids lourd hein, pour les populations résidentes. Ces déplacés ont besoin de nourriture, ont besoin de biens essentiels de base. Et évidemment, c'est inquiétant. On est en train de mener une opération de distribution de nourriture pour 8000 personnes. C'est déjà une contribution, mais c'est pas suffisant.
Jean-Yves Clémenceau du CIC est joint à Genève. En Égypte, un bâtiment de la police dans le Sinaï a été la cible d'un kamikaze dont la voiture était bourrée d'explosifs. L'attaque qui s'est produite à l'aube ce mardi a fait un mort parmi les civils et blessé 24 policiers. L'attaque n'a pas été revendiquée immédiatement. Les militants islamistes sont souvent accusés d'être à l'origine d'attaques répétées dans le Sinaï. Ces attaques se sont multipliées depuis que l'armée a déposé le président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Une bombe artisanale a tué hier trois soldats près d'El Arish.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Dans l'actualité internationale, colère de la Maison-Blanche après la lettre envoyée par les 47 sénateurs républicains aux dirigeants iraniens. Le vice-président américain a vivement réagi ce mardi contre ceux qui veulent saper, selon lui, l'autorité de Barack Obama. Le point, Nicolas Pinault.
Dans un communiqué, Joe Biden explique que cette missive envoyée à la République islamique d'Iran est conçue pour saper un président en exercice à mi-chemin de négociations internationales sensibles. Elle est indigne d'une institution que je révère, tranche le vice-président américain. Dans cette lettre envoyée hier, les 47 sénateurs républicains avertissent Téhéran que tout accord sur le nucléaire iranien devra recevoir l'aval du Congrès à Washington, le seul à même de pouvoir lever définitivement les sanctions américaines. Ce texte est une mise en garde sans valeur juridique, avait répliqué dès lundi le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui n'y a vu que de la propagande. Le département d'État a fait savoir que le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, reverrait son homologue iranien dimanche à Lausanne, en Suisse, pour un nouveau cycle de négociations après celui de Montreux la semaine dernière.
Et les États-Unis se sont attirés aujourd'hui les foudres de Cuba après les nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela. C'est le premier clash public entre Washington et la Havane depuis que les deux pays ont annoncé en décembre dernier des pourparlers sur le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Dans un communiqué officiel, Cuba a qualifié la décision du président américain Barack Obama d'arbitraire et d'agressif. La sanction prise hier par les États-Unis vise sept hauts fonctionnaires vénézuélien que les États-Unis accusent donc d'avoir violé les droits de l'homme et de s'être rendu coupable d'actes de corruption. Parmi les fonctionnaires vénézuéliens figurent le chef des services de renseignement et le directeur de la police nationale. Le gouvernement cubain a déclaré qu'il réitère son soutien inconditionnel au Venezuela. Les services de secours argentins vont commencer ce mardi à retirer du lieu de l'accident les corps des 10 victimes de la collision d'hélicoptères survenue hier. C'est ce qu'a annoncé la juge chargée de l'enquête citée par l'AFP. Parmi les 10 victimes de l'accident survenus lundi à Villa Castelli, un site montagneux, en figure 8 Français et les deux pilotes argentins tués dans la collision entre deux hélicoptères affrétés pour le tournage d'une émission de télé-réalité pour la chaîne de télévision TF1. En Birmanie, la police a interpellé aujourd'hui quelques 70 manifestants lors d'une marche d'étudiants contestant une réforme de l'éducation qu'ils jugent non démocratique à quelques mois de l'élection législative, d'une élection législative clé. Et puis on termine par le sport avec du football. La CAN des moins de 20 ans au Sénégal, c'est la journée de repos aujourd'hui dans ce tournoi. Hier, dans le groupe B, le Ghana a bien entamé la compétition en battant l'Afrique du Sud 2-0. Dans le groupe B, la seconde rencontre du groupe s'est soldée par la victoire des jeunes maliens face à leurs homologues zambiens 1-0. But du milieu du terrain malien Alassane Diallo à la 75e minute. Les hostilités reprennent demain avec la deuxième journée dans le groupe A. Nigeria, Congo et Côte d'Ivoire-Sénégal. Le Nigeria est en tête de groupe grâce à sa victoire 3-1 contre le Sénégal dimanche. La Côte d'Ivoire et le Congo comptent un point chacun après leur match nul, un but partout. Avant de finir, on termine avec la Française Amélie Mauresmo qui rentre au Panthéon du tennis mondial. Elle a été élue hier au Hall of Fame du tennis en compagnie de David Hall, sextuple médaillé paralympique, et de Nancy Jeffet pour ses efforts en faveur du tennis féminin et junior. C'est ce qu'a annoncé l'association basée ici même aux États-Unis. Ce sera tout. Jean-Roger Billon, vous retrouverez la grande édition LMB tout à l'heure dans 20 minutes.